Like smile and classiques comme on les imagine. Par contre, dans le second roman qui sortira bientôt, ils habitent dans un environnement équatorial et africain, qui vivent dans une savane. Et j'ai basé leur comportement et un peu leur physique aussi sur les guépards. Il y en a d'autres qui vivent dans des marais, mais là je me suis plus inspirée des crocodiles. Donc les dragons sont très changeants selon où ils habitent. Et ce sont surtout des animaux très naturels, il n'y a pas de magie, c'est pas comme dans Tolkien, c'est pas des animaux magiques, ce sont des animaux classiques, on va dire, dans ce monde-là.
Du coup, est-ce que vous vous reconnaissez dans une démarche qui consiste à justement à rendre les dragons réalistes, hein, à les parler d'une façon naturaliste, du fait qu'ils auraient pu exister? C'était la démarche, je le rappelle, quand j'ai évidemment choisi d'affirmer un très joli point, c'était Chimère et Dragon, que Thierry Moi avait fait avec Camille.
Là, c'était bon. Parce que lui, il ne savait pas trop écrire. Il avait une très bonne idée, il m'avait demandé d'écrire ce bouquin, enfin, l'idée d'écrire ce bouquin. Et en fait, lui était passionné par la cryptozoologie. Donc, c'était une aventure où j'étais un petit peu lointain. Je me suis amusé plutôt à relire les trois lancers du Bagdad, Mungadine, donc à raconter un roman d'aventure. Mais lui était vraiment passionné et reconstituait des dragons. D'ailleurs, quand on allait chez lui, ça sentait quand même assez mauvais, parce qu'il avait des bouts de viande, des choses comme ça, qui faisaient un peu pourrir, jusqu'à ce que ça devienne un peu de la corne. Et mais là, ce sont des os qu'il a amalgamés, et donc après, il laquait, et c'était pas terrible. D'ailleurs, sa femme l'a quitté. Ça va dire que l'a quitté. Mais disons, moi, j'ai eu un rapport dans l'enfance très. Parce que, en fait, j'ai eu un poil de dragon pendant très longtemps. C'était un crin de dragon. Parce que dans ma région, et c'est assez amusant, enfin, dans notre région, c'est assez amusant, c'est que le dragon est très présent. Le dragon est un animal fabuleux, mais qui est un animal protecteur. Et d'ailleurs, sur les beffrois, sur les églises, en haut du clocher, les villes ont très souvent un dragon protecteur sur le clocher. Et très souvent, on promène un dragon en carton sur les anciens remparts, enfin tout ce qui reste des remparts. Les remparts, on le fait dans une région à Mons. Et ce dragon est très amusant parce que j'ouvre là et je vois l'évolution. Or, le dragon historique de cette région-là, c'est le Lumisson, appelé familièrement le Doudou. Et donc on sort tous ces dragons. En général, quand le printemps va revenir, et on promène ce dragon dans la ville. On le fait aussi à Bergamon. Ce dragon-là s'appelle le Bouzouk. Mais le plus terrible, c'est le dragon de Mons. Il y a tout un rituel. Incroyable, c'est que ce dragon a une queue immense, dangereuse, et des chinchins, des hommes sauvages, le portent à travers la ville, sur la place, et il y a un combat entre Gilles de Chat, qui est un célèbre chevalier qui a combattu le Lumisson, mais qu'on a récupéré sous le nom de Saint-Georges. On a, disons, christianisé ce chevalier. Il y a un combat entre le dragon et ce chevalier, et qui dure tout un peu, enfin, au moins une heure, une bonne heure, au son d'une musique rituelle et répétitive, avec des carillons, avec des tambours, et donc il y a les démons aussi qui sont du côté du dragon. Et enfin, le Saint-Georges tue réveille Blanche-Neige, il faut qu'il réveille la Belle au Bois Dormant, il faut qu'il réveille la Vierge et qu'il la croque. Et on sait que le dragon est supérieur à l'homme dans les vagues. Donc, ce dragon va enlever ou va exiger qu'on lui donne une jeune fille vierge. Alors, ça aussi, ça a été christianisé, et je suppose aussi que le dragon, après être resté en hibernation pendant une année, lorsqu'il sort et qu'il est ébloui par la lumière et qu'il voit un petit moine qui vient, l'exorciser en voyant le jupon, il doit confondre. Thank you. chrétiens sont allés. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler peut-être de manière extrêmement réaliste dans un premier temps pour ensuite en faire quelque chose de symbolique, d'extrême.
Qui est moins évidente.
So, if I wanted to, the inspiration behind the series was that I wanted to have my character looking at dragons scientifically, and so for that to be the case, the time period had to be like post-Enlightenment, in a period where looking at the world through that rationalist scientific lens was a thing people did. And the Victorian period in particular is when you really hit this huge studying everything that didn't run away fast enough. And there was so little that was known that it was incredibly easy to make discoveries because there's actually a line in the fourth book where Isabella actually has to put together a research proposal for somebody to approve.
does take a little bit of the steampunk kind of ethos and elements, but it's more visible as the series goes along because there start being some forms of technology that are definitely more classically steampunk. I will note, by the way, I have done the more mythic approach to dragons once in another series, The Onyx Court, which are historical fantasies set in London. What I ended up doing with The Great Fire of London in 1666, that is, forget nature, forget science, this is elemental fire growing huge and eating the city. So I have also done high mythology kind of draconic stuff, and that was fun in its own way.
Alors oui, effectivement, il y a quelques éléments de steampunk dans la série, et d'ailleurs, au fur et à mesure que ça évolue, il y a de plus en plus de technologies typiquement steampunk. Mais j'ai aussi fait, dans une autre série, Onyx Court, qui n'est pas encore publiée en français, j'ai étudié un aspect un peu plus mythique des dragons également, donc notamment avec le grand incendie de Londres en 1666, oublier la nature, oublier la science, là c'est juste un feu qui prend des proportions énormes. Je suis vraiment beaucoup amusée avec ça.
Oui, c'est le Moyen-Âge. son dragon, évidemment, c'est merveilleux. Mais moi, j'ai toujours, disons que le dragon, pour moi, est lié à l'enfance. Comme toi aussi, la première vision du dragon, c'était la belle roi dormant. Et moi aussi, c'était les films avec vraiment, alors là, les premiers, tout premiers effets spéciaux, je ne sais pas tout là. Et donc, c'était arrivé à Ossal, et donc ces dragons semblaient mécaniques parce qu'ils étaient filmés image par image comme ça. Ils avaient donc une espèce de ils ressemblaient à des automates. Ils avaient une manière très étrange de se mouvoir et qui était fantastique, mais qui était justement du domaine de l'enfance et d'un côté marionnette. Et donc tous ces films que j'avais vus sur les frères Grimm dans les villes. Les amours enchantées ou l'épée magique, il y avait toujours ces dragons, mais qui étaient bien sympathiques, quoi. Enfin, même si c'était méchant, on les avait bien. Il y a eu Cœur de Dragon après le film qui n'a fait que conforter mon idée du dragon qui sait devenir des étoiles, justement, avec le dragon. Et j'avais lu aussi que dans, je crois que c'est en Roumanie ou quelque chose comme ça, il y a un dragon qui ne se nourrit que de fleurs. Et à la place de plan, il a des clochettes de cristal. C'est quand même très joli, les arbres dans l'image qu'il a, les voyages du dragon. Et donc, ce dragon, pour moi, a toujours été une. Et j'avais lu, alors je vous conseille de lire, c'est très très bon, c'est de Jacques Perret, ça s'appelle La Bête Maousse. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui très très bien écrit, Perret, c'est toujours très bien écrit, naturellement, il vit à la campagne, il va pas trop loin de Paris, quand il y a encore la campagne près de Paris, et il y a un dragon qui, une espèce de vestige de dragon, il est toujours vivant, et on va assécher les marais, et donc il faut qu'il s'en aille. Et donc le petit garçon dit à son grand-père, il y a un dragon qu'il faudrait quand même aider, et là, curieusement, le grand-père ne fait pas en doute les paroles de son petit-fils, et il va voir ce dragon et qui est vraiment gigantesque et magnifique, qui est fatigué, quoi, et il va le ramener à travers le pari qui se construit du canal de la Seine jusqu'à la mer. Et tout ce qui se passe est vraiment très très drôle. À un moment donné, il se retrouve dans une fête de village, et comme il est bien accueilli, leur païen fait l'artifice, évidemment, en soufflant des germes de. Et c'est vrai que pour moi, le dragon a toujours été. En plus, le dragon, quand on s'intéresse à la féerie, il renferme tous les quatre éléments: le feu, évidemment, la terre. Il est vraiment sous la terre, il protège les nains, le minerai. Il ne faut pas le mettre en colère, justement. Mais aussi, il va sous l'eau. Il est un excellent nageur. Il va sous l'eau également. Et il a le ciel en même temps. Et il réunit les quatre éléments, ce qui le rend encore plus puissant. Il règne sur les quatre éléments. Et être en harmonie, justement, avec le dragon, souvent on parle du souffle du dragon, passer à travers le dragon, c'est justement se mettre en harmonie avec la nature, avec les quatre éléments, se laisser porter, habiter sur les ailes du dragon.
Merci. Alors, cette symbolique du dragon, comment vous l'utilisez personnellement, à quoi vous sert le dragon dans l'histoire des ailes du dragon?
It actually serves a number of different kinds of symbols depending on which story it's in, because there are many different kinds.
French, but this local monster legend of this kind of half-human, half-dragon thing that will come and eat disobedient children. But for Isabella, she actually talks at one point about how dealing with the strictures that society places on her as a well-bred young gentlewoman, she feels as if there's a dragon inside her that wants to get out. So for her, it is kind of this expression, not just of freedom, but like of power and the ability to do the things that you were meant to do. Like she feels that she was meant to do a great deal more than society really wants her to.
Alors effectivement, les dragons pour moi ont plusieurs symboles puisqu'ils sont de formes variées et dans des parties variées du monde. Mais en ce qui concerne le premier roman, il y a en fait une tension entre Isabelle et les villageois parmi lesquels elle vit, puisque pour elle, les dragons c'est juste magnifique, c'est génial. Voilà. Les villageois, eux, sont plutôt en train de dire que oui, les dragons ils mangent nos moutons et nous, nos moutons, on en a besoin. Donc ils sont beaucoup moins sodomiques que eux. Mais ils ont quand même une légende d'un homme qui a voulu se transformer en dragon et qui au final est devenu une espèce de monstre. Il est à moitié humain, à moitié dragon, et on raconte qu'il vient manger des petits enfants qui sont désobéissants. Donc voilà, ils n'ont pas du tout la même vision du dragon qu'elle. Mais elle, elle vit dans une société où il y a des règles très précises à respecter, surtout en tant que femme, et elle, elle a l'impression qu'elle a un dragon en elle qui veut lutter justement contre ces règles, et que pour elle, le dragon représente non seulement la liberté, mais juste la possibilité de faire ce qu'on était censé faire. Elle, pour elle, elle considère qu'elle doit étudier les dragons, et pour elle, le dragon, c'est la liberté.
Il y a l'image de prendre son envol pour l'héroïne qui revient de manière récurrente. Elle, c'est l'observation de son premier dragon en vol qui est un moment très beau dans le livre.
There actually are a few points in the series where Isabella tries to get that flight thing going on in a little more literal sense. It doesn't always work well for her.
Donc il y a plusieurs moments dans les romans où elle essaye de prendre son envol, mais dans un sens un petit peu plus littéral, et ça se passe pas toujours très bien pour elle.
Ça existe depuis la préhistoire, c'est une espèce qui a survécu. l'impression que le dragon est très souvent, va rencontrer très souvent une belle, une autre pareille, donc une fée, une demoiselle, une jeune fille. Et là, c'est le terme général de ce qu'on appelle le fier baiser. Alors, le fier baiser, qu'est-ce que c'est? C'est la belle embrassant le mufle de la bête. C'est le prince des grenouilles qui vient voir aussi une jeune fille, une bergère, et qui lui dit « Embrasse-moi, je vais passer une nuit avec toi. » Et est-ce qu'elle va le prendre dans son lit ou pas? Une de ses sœurs ne le fera pas. Elle, qui est bonne, qui est justement en harmonie avec la nature, ne sera pas dégoûtée par le verra soit les poils hirsutes et affreux de la bête, ou qui est représenté quelquefois aussi par certains illustrateurs à l'époque, là, au 17e siècle, 18e siècle, par un dragon. Et donc, il y a une petite histoire qui va un petit peu résumer ce que je dis. C'est qu'un jour, donc, un roi, je vais essayer de faire court. Il y a un royaume heureux, justement, et il y a un roi et une reine, et ils sont beaux, ils sont gentils, ils offrent de l'or à l'appel, à leur sujet. Donc la vie est heureuse, l'herbe est plus verte, les vaches sont plus abondantes, on va du moins être heureux, mais ils n'ont pas d'enfants, et ils se disent, voilà, je suis obligé d'aller au défi comme. Il faut absolument que le roi et la reine fassent un enfant pour l'attend. Ils ont essayé toutes les positions derrière. Donc un jour, on dit à la reine, voilà, il y a un enchanteur, Merlin bien sûr, qui est dans la forêt, vous devriez le voir. Et là, elle y va et elle lui dit, voilà, je te donne deux oignons. Et là, le ciel tombe, dépêche-toi. Il faut que tu manges ces deux oignons, tu rentres chez toi, mais il faut que le ciel soit encore, ne soit pas tombé, que la nuit ne soit pas venue. Donc, toi, elle y va. Et donc, évidemment, lorsqu'elle arrive dans cette voie, le ciel qui tombe, donc elle mange un dragon, elle est plus vite, elle mange l'autre oignon. Et voilà, quelques temps après, elle est enceinte et elle peut mettre un beau prince au jour, quoi, elle va accoucher d'un beau prince. Brusquement, la bête au trou dit « Ah, il y a encore un !» Et là, elle tire le dragon. Et c'est un petit dragon, donc le père veut qu'on le tue. C'est quand même un joli dragon, c'est son enfant qu'on est là. Donc, elle dit « Non, je le garde. » Et alors, cachez-le moi, je donne un précipice. Et beaucoup plus tard, quand le prince va vouloir se marier, il va tomber sur un dragon qui le menace. Et il dit, non, je ne te tuerai pas, je suis ton frère. Et parce que je suis aimé, donc c'est moi qui me marier avant, etc. Si je dois aller dans le lit, tiens, je donc, et avant ça, je vais avoir lui. Donc, il faut absolument que tu me trouves une femme. Donc, on fait appel aux princesses, elles ne veulent pas, et on les comprend un peu. Donc, alors, aux grandes bourgeoises, elles ne veulent pas. Donc, essayent de trouver quelqu'un qui, une jeune fille qui est vierge, qui acceptera d'épouser ce dragon. Et là, il y a un père qui donne sa fille parce qu'il a besoin d'argent, et là, la fille est terrorisée. Et le dragon vient la chercher pour l'emmener dans sa caverne. Et là, un enchanteur, Merlin, la tire dans un coin et l'emmène dans une maison. Et quand elle ressort, elle est grande, magnifique. La robe magnifique, elle suit le dragon, et le dragon de sa voix terrible, il dit enlève ta robe, elle enlève une robe, et elle entend comme une espèce de ruissellement métallique derrière elle. Et elle dit, il n'y a pas de se retourner, évidemment, on ne te retourne pas, mais enlève ta deuxième robe, elle entend encore un bruissement curieux derrière elle, et plusieurs fois comme ça, elle se trouve nue, et là, d'une voix enchantresse, il dit retourne-toi maintenant, et elle se retourne. Et elle voit un beau jeune homme avec autant de peau de dragon qu'il a enlevé également. Et ça, c'est l'histoire de qu'on trouve très souvent dans le conte, dans les contes médiévaux. C'est le rapport entre la jeune fille et la bête. Et le fier baiser, donc, c'est ce a révélé sa beauté et tout son pouvoir. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre Dubois, pour cet art du conte. Vous savez,